Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente vite fait. Moi, je m'appelle Paul. J'habite donc pas très loin à Fézin. Je suis à l'église comme à la maison. C'est vers Caluire et Cuire. Et cette année, je suis en stage donc dans cette église. On m'a proposé, enfin j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exercer aussi à prêcher ici. Donc je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, de rencontrer votre église. Et aussi, merci beaucoup de me laisser cette occasion de pouvoir prêcher. Et je vous adresse aussi les salutations de l'église comme à la maison. Voilà. Avant de commencer, on a déjà prié, mais j'aimerais vraiment remettre encore une fois ce moment dans la prière. Je crois que c'est important. Seigneur, comme on a vu ce matin, tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés d'un grand amour inconditionnel qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On veut venir devant toi ce matin. C'est par le sang de Jésus qu'on peut venir dans ta présence. Je te prie, encore une fois, que tu puisses ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, à ta parole. Je te prie que tu puisses, dans ta grâce, m'utiliser et que je puisse retranscrire fidèlement ta parole, Seigneur. Je te prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors, de toutes les personnes de l'histoire, Jésus est sans doute la plus célèbre. Pensez-y un instant. Combien de personnes sur Terre ont entendu parler de lui? Rendez-vous compte, sa vie a marqué le calendrier mondial. On le divise en deux. On parle de avant et après Jésus-Christ. Son influence est grande. Il y a plus de chansons, de tableaux, de livres qui lui sont consacrés que n'importe qui. Même le célèbre magazine Time l'a désigné comme la personne la plus importante de tous les temps dans un classement historique. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui admirent Jésus. Certains aiment ses paroles sur l'amour du prochain, d'autres le voient comme un modèle de paix ou un grand sage. Ils aiment ses citations, ils regardent des vidéos sur lui, ils vont même à l'église de temps en temps. En fait, on pourrait dire que Jésus a beaucoup de fans. S'il avait un compte Instagram ou Facebook aujourd'hui, il aurait sûrement des millions de followers. Mais si on regarde bien dans la Bible, on apprend que Jésus, il ne cherche pas des fans. Il ne veut pas juste des gens qui l'applaudissent de loin. Ce qu'il cherche, ce sont des disciples. Et c'est important, je crois, de se le rappeler ce matin, et je voulais mettre l'accent dessus. En fait, il ne cherche pas des admirateurs passifs, mais des hommes et des femmes qui le suivent de près, qui écoutent ses enseignements, les mettent en pratique, lui font confiance et qui réorientent leur vie autour de lui. Alors la vraie question que tout le monde devrait se poser, c'est pas « est-ce que tu aimes bien Jésus comme un fan hein, » dans ce sens-là, mais « est-ce que tu es son disciple ?» Et pour y répondre, on va regarder un texte très simple dans l'Évangile selon Marc, où Jésus il va appeler ses premiers disciples. Et je vous propose de découvrir ou redécouvrir ensemble ce que cela veut dire être disciple à l'école de Jésus. Voilà. Donc le texte se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, au verset 14 à 20. Et je vais vous lire dans la version Second 21. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Alors j'ai préparé cette prédication en trois points. Et le premier, c'est être disciple à l'école de Jésus, c'est croire à la bonne nouvelle. Et en fait, cela semble assez logique et clair. Croire à la bonne nouvelle. Ça paraît simple et ça l'est. Mais peut-être que pour certains, cela est encore flou. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Alors j'aimerais qu'on puisse se rappeler de ce que c'est la bonne nouvelle. Tout d'abord, avant, dans le contexte, Jésus vient d'être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Ensuite, l'Esprit pousse Jésus à aller dans le désert 40 jours, où il est tenté par Satan. Et maintenant, le texte nous informe que Jean-Baptiste, en fait, il vient d'être arrêté et que Jésus va en Galilée pour poursuivre son ministère. C'est un tournant décisif. En fait, ici, on est au début d'une transition entre l'ère de la promesse de l'Ancien Testament et l'accomplissement. Jean-Baptiste, lui, il se trouve un peu entre ces deux périodes. Il était la voix qui criait dans le désert, le prophète qui préparait le terrain pour quelqu'un de plus grand. Mais maintenant, Marc, il balance tous les projecteurs sur Jésus, place au personnage principal. Et ici, nous avons un résumé de l'enseignement de Jésus, le cœur de sa prédication et finalement le centre du message de toute la Bible, la bonne nouvelle. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Ici, Jésus, en fait, il poursuit la proclamation que Jean-Baptiste avait, mais il a fait évoluer, aller un peu plus loin, sans contradiction. Alors voilà, Dieu vient régner à travers Jésus et il invite chacun à entrer dans ce royaume. Déjà, en Jésus, de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement, mais notamment chez Ésaïe, ici. En fait, il y a plusieurs passages qui annoncent un envoyé qui proclamera une bonne nouvelle et qui recevra l'Esprit de l'Éternel. On voit ça dans Ésaïe 52 et Ésaïe 61. Et c'est ce que Jésus vit lors de son baptême. Il est oint par Dieu, et c'est bien ce que souligne Marc dès le début de son évangile. Dès le verset 1, il dit « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et le terme « Christ », je pense que vous le savez, mais ça signifie justement « celui qui est oint ». Et cette bonne nouvelle de Jésus, c'est la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Le texte nous le dit au verset 14. Et Jésus, il est à la fois le messager, mais aussi le contenu. Il est lui-même au centre de cette bonne nouvelle. Et j'aime bien parce que dans Actes 20, l'apôtre Paul l'appelle la bonne nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. Alors Jésus dit, le moment est arrivé. Littéralement, il dit, le temps est accompli. Mais quel moment est arrivé? Eh bien, le moment que tout le monde attend à cette époque. Le moment annoncé par beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament. Le moment décisif de l'histoire. Le moment où Dieu va pouvoir agir pour sauver. Sauver de quoi? Bien, du péché. Depuis Adam et Ève, l'humanité est entrée en rébellion contre Dieu. Et maintenant, c'est comme si chaque être humain cherchait à s'asseoir sur le trône et être son propre Dieu. Mais les paroles de Jésus signifient qu'il y a une nouvelle époque qui commence. C'est le moment choisi par Dieu, un moment décisif dans l'histoire, préparé par lui pour nous racheter. Jésus entre en scène et les grandes promesses de l'ancienne époque vont pouvoir s'accomplir. dans l'Ancien Testament, on annonce que Dieu il va régner de manière éclatante. Alors bien sûr, Dieu il règne déjà sur toute sa création. Et ça, on peut le lire dans la Bible, dans de nombreux psaumes. Mais on voit que des fois, le règne de Dieu, il est souvent bafoué, même par son propre peuple. Il y a des textes comme Ésaïe 40, au verset 10, et 52, au verset 7, qui nourrissent justement l'espérance de ce règne à venir. Alors, il dit aussi, le royaume de Dieu est proche. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus est proche. Et ça, je trouve ça incroyable. En fait, c'est à travers Jésus que Dieu manifeste son règne. Il vient pour rétablir la justice, sauver son peuple et transformer les cœurs. Et j'ai lu ceci dans un commentaire et je voulais vous le partager, je trouvais ça intéressant. Ce dernier peut être qualifié de co-gérant du Père parce qu'en tant que Messie et Fils de Dieu, il règne avec son Père céleste. Jésus manifeste et incarne sur terre la présence du Dieu souverain, du Dieu qui règne. Mais voilà, l'annonce du règne appelle une réponse de la part des auditeurs. Et ici, la réponse, elle est double. Et c'est ce que Jésus fait, et il invite les gens à ça. La repentance, changer d'attitude, et la foi. Alors, j'ai une petite pièce de monnaie là. C'est comme ces deux choses, la repentance et la foi, c'est comme deux faces de la même pièce en fait. C'est deux choses qui sont reliées. Si vous voulez, il est impossible de mettre sa foi en Jésus comme sauveur sans d'abord changer d'avis à son sujet et au sujet de son œuvre, de ce qu'il a fait à la croix. Et c'est ça la repentance. Ici, Jésus, il lance un appel. La repentance, c'est un changement d'état d'esprit qui mène à un changement de vie. C'est reconnaître les mauvaises choses pour se tourner vers Jésus. En fait, c'est se détourner d'une vie centrée sur soi pour se centrer sur une vie centrée sur Dieu. C'est choisir une vie de confiance dans le règne de Dieu et l'obéissance. La repentance, c'est laisser la place à Jésus et dire « Je ne suis plus le roi installé sur le trône de mon cœur, mais maintenant, c'est Jésus le roi. » Et la foi, c'est lui faire confiance pour notre salut, pour le fait qu'il est mort et ressuscité, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Mais c'est aussi lui faire confiance dans tous les autres domaines de notre vie. Alors vous comprenez bien qu'on ne devient pas disciple par tradition ou héritage familial. On le devient par une réponse personnelle. On ne naît pas chrétien, on le devient. Avez-vous déjà fait ce choix qui est fondamental et qui réoriente toute la vie? Peut-être que vous êtes chrétien et que vous avez déjà été touché par la grâce de Dieu et répondu à cette bonne nouvelle de Jésus. Et aujourd'hui, je nous encourage à faire de la repentance et de la foi un mode de vie, c'est-à-dire chaque jour se détourner de son égoïsme et de mettre notre confiance en Jésus. Est-ce que la repentance et la foi sont devenus un style de vie dans ta marche quotidienne avec Jésus? Peut-être que c'est la première fois que vous venez dans une église et que vous entendez ceci. Et je vous invite à réfléchir à cet appel de Jésus et prendre une décision par rapport à ça. Ou peut-être que jusque-là, vous avez toujours grandi dans une famille chrétienne, derrière la foi de vos parents, comme moi quand j'étais petit. Mais j'aimerais te dire que ce message, il est pour toi aussi. Croire à la bonne nouvelle. Alors voilà, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Et c'est mon deuxième point. Être disciple à l'école de Jésus, c'est être appelé par Jésus pour la mission. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus y prend donc la direction du lac de Galilée. C'est un endroit où je pense que tous les pêcheurs allaient, ça manquait pas de travail là-bas. Souvent, les entreprises, elles prospéraient bien là-bas, et puis les pêcheurs, ils vendaient leurs poissons au-delà des frontières de Galilée. Et ici, Jésus, il voit Simon et André. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas la première fois qu'il les voit, qu'il les rencontre. Et Jésus, il leur dit, « Suivez-moi ». Littéralement, dans le texte original, il leur dit, « Venez marcher à ma suite, venez à ma suite ». Et ça, c'est un langage de discipulat. Alors, le mot disciple, ça veut dire apprenti ou élève. Et être disciple avec Jésus, bah, c'est le suivre et marcher à sa suite. Pour les premiers disciples, ici, c'est de façon littérale. Ils se sont vraiment mis à suivre Jésus sur le chemin. Surtout que Jésus, c'était un prédicateur qui bougeait à droite, à gauche. Et du coup, ils sont vraiment devenus ses compagnons de voyage. Il vivait avec lui. Mais ici, je crois que ça ne concerne pas que ces quatre hommes. Alors même s'ils vont avoir un rôle spécifique, parce qu'eux, ils deviendront apôtres, mais la façon dont Marc, en fait, il emploie ces mots, ça nous montre que cela, son appel, il s'adresse à tout disciple. Nous aussi, aujourd'hui, Jésus nous appelle à marcher à sa suite. Quand Jésus dit « Suis-moi », en fait, il nous invite à être avec lui. Et à ce moment, Jésus est donc devenu leur maître, rabbi. Et surtout, qu'il me semble que la plupart du temps, c'est les disciples qui choisissaient leur maître. Mais ici, vous voyez, c'est l'inverse. C'est Jésus qui vient et qui choisit ses disciples. On voit ici aussi toute l'autorité du Messie. Et c'est ce que Marc il cherche à montrer dans le début de son évangile. C'est que Jésus, il a l'autorité divine. En fait, quand Jésus appelle, c'est Dieu qui appelle. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, je trouve que c'est très intéressant ici. Jésus, il les invite à entrer dans un processus de formation en vue de la mission. La mission, c'est justement de partager cette bonne nouvelle à tous les êtres humains. Et il ne les invite pas juste pour dire « c'est cool, on va passer des super moments ensemble, on va bien rigoler, on va aller se baigner au lac de Galilée ». Mais son but, c'est de les faire devenir quelque chose qu'ils ne sont pas encore. Ils ne vont plus pêcher des poissons, mais des humains. Jésus les appelle en vue de la mission. Et le but, c'est des disciples qui feront à leur tour des disciples. Et comme Jésus est lui-même pêcheur d'hommes, ils le seront à leur tour. Et en ce temps de formation-là pour les disciples, il va passer par deux temps, on peut dire. Dans un premier temps, ils vont rester et apprendre auprès de Jésus. Durant son ministère, ils vont entendre son enseignement, ils vont être témoins de ce qu'il va faire. On voit aussi souvent que Jésus, il va les mettre en action. Par exemple, quand il faut nourrir une foule de personnes, ils vont se mettre dans l'action. Mais après la mort de Jésus, les disciples, ça ne va pas s'arrêter là, ils vont continuer à annoncer l'évangile. Et c'est là qu'ils seront pêcheurs d'hommes. En fait, les années auprès de Jésus les ont préparés. Ils ne sont pas retournés au lac après pour continuer ce qu'ils faisaient, mais animés et poussés par l'Esprit, ils vont continuer la mission et répandre l'Évangile. Et pour ça, je vous laisse lire le livre des Actes. Mais vous voyez ici, il y a vraiment l'idée d'un processus. Le discipulat, c'est un apprentissage. On devient disciple en marchant avec le Maître. Et Jésus, il n'appelle pas des gens déjà qualifiés. Je dirais que c'est lui d'ailleurs qui qualifie. Il ne s'attend pas à des performances exceptionnelles dès le départ. Et durant ce processus, on va voir que les disciples, ils auront le droit à l'erreur. Mais notez que Jésus, il parle aussi leur langage. Et encore une fois, je trouve ça très intéressant. Il part de leur réalité à eux. Et quand il dit « je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », c'est un petit jeu de mots, mais eux, ils comprennent direct. En fait, ils utilisent des mots qui leur parlent. Il leur demande donc de changer de vocation. Et en avançant le long du lac, il aperçoit deux autres frères qui exercent le même métier que Simon et André. Et eux aussi, ils se trouvent dans leur bateau. Ils réparent leur filet. Et ça, c'est une activité courante parmi les pêcheurs. Hein. Et l'appel qu'il leur lance ici, c'est le même appel qu'il a fait avant. C'est une invitation à suivre Jésus et devenir des pêcheurs d'hommes. Alors, si vous êtes chrétien, eh bien, je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre aussi ici, dans notre façon aussi de faire des disciples. Parler leur langage, la formation, l'enseignement, inviter aussi à mettre en action. Et oui, car Christ, en fait, il nous appelle à faire des disciples. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. On lit ça à la fin de Matthieu, Matthieu 28, c'est le mandat missionnaire. Et est-ce qu'on a conscience que c'est un processus, une formation, on pourrait dire un stage, entre guillemets. Alors bien sûr, le but dans le discipulat, c'est de guider la personne vers le vrai maître, qui est Jésus. Mais je crois que dans le discipulat, il y a vraiment ce côté de vivre avec, de suivre, être avec la personne. Et c'est ce que Jésus faisait. Les disciples, ils étaient presque constamment avec lui. Et peut-être que quand on fait des disciples, justement, on devrait refléter Jésus. En tout cas, moi, je me suis rendu compte de ça plus tard, hein, mais c'était avant ma conversion. Pendant un an, en fait, il y a un ancien de mon église qui a pris le temps régulièrement avec moi. En fait, on se voyait dehors, on allait chez lui, des fois, on se voyait au parc, on mangeait ensemble, on discutait, il m'enseignait à partir de la parole. Et je voyais aussi comment il vivait en accord avec sa foi. J'étais observateur de tout ça. Et par la grâce, le Seigneur, il m'a sauvé. J'ai compris l'évangile en lisant l'évangile de Jean. Mais voilà, il a vraiment pris le temps de faire du discipulat avec moi. Et aujourd'hui, ça m'encourage, et je voulais vous encourager dans ce sens, à faire de même. Et il est important de se rappeler, je crois aussi, que ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est avant tout Jésus qui appelle les cœurs. Et je le vois aujourd'hui aussi quand je fais du discipulat avec d'autres. Alors toi, est-ce que tu as entendu son appel? Es-tu en train de vivre pour toi ou pour sa mission? C'est une question importante, je crois. Laissons Jésus faire de nous des pêcheurs d'hommes. C'est la mission de toute l'Église. Et la mission, elle est au cœur même de l'identité des disciples. Si une Église, elle perd de vue cette mission fondamentale, eh bien les disciples, ils seront découragés. Et c'est comme si l'Église, elle perdait aussi de sa saveur. Mais n'oublions pas que c'est Jésus qui appelle. Nous sommes ses représentants. Et c'est lui qui parle au cœur, comme je l'ai dit. Donc, ce matin, si vous entendez l'appel de Jésus en écoutant ce texte, bien sentez-vous privilégié et répondez avec foi et courage. Et enfin, mon troisième point, être disciple à l'école de Jésus, c'est laisser pour prendre une nouvelle direction. Maintenant, en fait, il est intéressant de regarder la réponse des disciples suite à l'invitation de Jésus. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Et donc, c'est mon troisième point. C'est laisser pour prendre une nouvelle direction. Que font les disciples? Eh bien, ils laissent. Ils abandonnent leur filet, leur barque. Rendez-vous compte hein, de ce que c'est. C'est pas rien. C'est pas un objet banal là qu'ils laissent. C'est leur outil de travail, leur métier, leur vocation. Elle est en jeu. Et pour eux, une page se tourne, un nouveau chapitre de leur vie s'ouvre. Être disciple implique donc un renoncement, un engagement total. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui sont ici doivent abandonner et laisser leur métier. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a forcément un changement de cap. Jésus, il les convie à se réorienter en vue justement de la grande mission. Et finalement, pour tout disciple, eh bien, il y a un prix à payer. Un peu plus loin, au chapitre 8 de l'évangile de Marc, au verset 34, on peut lire Jésus qui appelle la foule et ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et ça fait réfléchir. Ce qui est intéressant et magnifique ici de la part de ces quatre hommes, c'est qu'ils prennent position sans délibérer, sans hésiter. Et je crois que ça aussi, c'est une conséquence de l'amour irrésistible de Dieu. Il appelle, et l'appel de ces quatre hommes ici, c'est quelque part l'appel de tout disciple, encore une fois. Tout disciple, quel qu'il soit, vit pour Jésus et l'Évangile. Encore une fois, là, il y a un vrai langage de discipulat et je crois que ça nous concerne tous et toutes. Alors, Simon et André, ils abandonnent leur filet, mais regardez, Jacques et Jean, ils laissent derrière eux leur propre père avec les ouvriers. Ici, il s'agit sûrement d'une petite entreprise familiale qu'ils laissent avec leur vocation de pêcheur. Et dans le contexte juif, c'est pas rien de laisser son père et l'entreprise familiale. Donc le prix qu'ils acceptent de payer, il est fort élevé. Mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Eh bien parce que suivre Jésus devient leur priorité absolue. Et c'est encourageant. Mais je ne sais pas vous, mais moi ça me fait prendre conscience de certaines choses. Suivre Jésus implique de vivre pour lui, avec lui, dans ses priorités. C'est passer de ton royaume où tu es le roi à son royaume où c'est lui le roi. Et parfois, quand je regarde ma vie, je me dis, est-ce que Jésus règne réellement dans tous les domaines de ma vie ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai du mal à lâcher ? Dernièrement, j'ai pris une décision radicale. Attention, ce que je vais dire là, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, même si je pense que ça fait du bien. Mais j'ai décidé de faire un mois sans écran, sans réseaux sociaux, sans Netflix, sans jeux vidéo, tout ça, j'ai tout viré. Bref, la totale. Et je peux vous dire que c'est vraiment dur. Mais je sentais que le Seigneur, il me poussait à lâcher ces choses qui pour moi devenaient addictives, comme une idole. Et je devais lâcher ceci pour laisser Christ surtout à la première place, au centre, en fait, qu'il règne finalement dans mon cœur et dans tous les domaines. Car parfois, je pouvais passer plus de temps une journée sur mon écran que passer du temps avec Jésus, à prier, passer du temps avec lui, à lire sa parole. Et gloire à Dieu, parce que je pense que c'est grâce à lui. Pour l'instant, ça se passe bien, même si c'est dur. Et peut-être que comme moi, aujourd'hui, tu as besoin de renoncer encore à certaines choses dans ta vie et réorienter ton regard sur Christ, sur la mission. Alors, je ne dis pas que c'est forcément la même chose que moi, mais ça peut être autre chose. Devenir disciple, en fait, ce n'est pas juste un petit détail ou un petit plus dans notre vie. C'est un bouleversement qui nous propulse dans la joie du royaume, mais qui implique des changements et certains renoncements. Et je crois que le texte de ce matin, il nous invite à cela. En fait, je voulais vous inviter pendant un court temps de silence, juste quelques minutes, à voilà, examiner votre cœur dans la prière. Quels sont les filets peut-être que tu dois laisser ? Est-ce que peut-être que c'est trop de confort, une recherche de sécurité matérielle, une relation peut-être qui t'éloigne de Christ ? Prenons un moment tous ensemble dans le silence de repentance devant le Tout-Puissant. Venons à Christ et approchons-nous du trône de la grâce et de son amour pour qu'il nous montre finalement que le suivre dans son royaume vaut plus que tout le reste et que nous puissions réorienter nos priorités. Alors je vous propose juste quelques minutes. Voilà, alors pour conclure, qu'est-ce que cela veut dire être disciple à l'école de Jésus? On l'a vu ensemble dans ce passage de Marc. D'abord, c'est croire à la bonne nouvelle, répondre à l'appel de Jésus qui annonce que le règne de Dieu est proche. Il appelle à une vraie repentance et une foi vivante dans son œuvre. Ensuite, c'est répondre à l'appel de Jésus pour la mission. Il ne nous appelle pas à rester spectateurs, mais à le suivre activement et à devenir à notre tour des pêcheurs d'hommes. Il nous forme, il nous transforme et il nous envoie. Et enfin, être disciple, c'est laisser pour prendre une nouvelle direction. Ce n'est pas juste ajouter un peu de Jésus dans notre quotidien, mais c'est une nouvelle manière de vivre, centrée sur lui, avec lui et pour lui. Et Jésus, il nous invite dans son royaume, à lui, où c'est lui qui règne. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je disais au début de l'introduction? Il y a une différence entre être fan de Jésus et être son disciple. Je crois vraiment que Jésus n'est pas venu juste pour avoir des fans de loin. Il n'est pas venu à la recherche d'une foule qu'il regarde de loin, ni des gens qui likent ses citations. Sans que cela change quoi que ce soit à leur vie. Il est venu nous sauver et il cherche des disciples. Il appelle des hommes et des femmes à se lever, à le suivre, à marcher à sa suite et lui faire confiance pour leur salut. Et il appelle des personnes ordinaires, comme Simon, André, Jacques et Jean, des pêcheurs dans les deux sens du terme. Rien d'extraordinaire, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'appelle pas des personnes sur la base du mérite. Donc l'encouragement que je veux nous laisser, c'est ne soyons pas des fans, mais des disciples. Et en tout cas, j'espère que ça vous encourage à vouloir être vraiment disciples de Jésus et de participer à sa mission. Sommes-nous prêts à vivre les dépouillements que cela implique? La conversion n'est pas seulement le moment où l'on devient chrétien, c'est une exigence de tous les jours, y compris pour celui qui pense déjà être disciple. Et bien sûr, la vie de disciple, c'est une chose dans laquelle nous progressons durant toute notre vie. Personne, je crois, ne vit parfaitement l'évangile dans toutes les situations de sa vie. Et c'est pour cela que nous comptons sur sa grâce. Ce message ce matin, c'est un défi qui s'adresse tout autant à moi qu'à vous. Mais je crois que sur ce chemin de disciples, nous ne marchons pas seuls. Nous marchons déjà avec Jésus. Il y a aussi l'Église, là où nous pouvons grandir ensemble. Et heureusement, je crois qu'il y a l'Esprit Saint qui nous conduit. Voilà. Amen. Bon dimanche.